Les cours du Collège de France, État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, Alain Supiot.
Alors, je vais reprendre là où nous en étions. Ça tombe bien, puisque c'est ce matin, je pense, qu'il est question à nouveau de la réforme du Code du travail. Et j'avais évoqué les projets de réforme qui ont été lancés à l'initiative du Premier ministre le 1er avril dernier, et qui avait donc donné lieu à la publication, annoncée d'ailleurs dans la lettre de mission du ministre, d'un ouvrage, d'un petit ouvrage et d'une tribune dans Le Monde de messieurs Badinter et Antoine Lioncamp, et de deux rapports de Terra Nova et de l'Institut Montaigne, si ma mémoire est bonne. Alors, je vous en parle pour... C'est un lien avec l'actualité aussi, mais pour essayer de voir comment ces normes internationales dont nous sommes en train de parler, en particulier le pacte international sur les droits économiques et sociaux, qui a été ratifié par la France, comment il peut servir de garde-fou dans des moments où il y a projet de réforme, c'est-à-dire en quoi il limite les marges de manœuvre du législateur français. Donc, le projet avancé par M. Badinter et Lioncamp s'intitulait « Pour une déclaration des droits du travail ». J'avoue que le titre laisse un peu songeur, parce qu'on ne pense pas que le travail soit un sujet de droit en lui-même. Ce qui peut être un sujet de droit, c'est le travailleur. Bon. Enfin, il est vrai que c'est un mot qui paraît peut-être vieillot, travailleur, et c'est peut-être la rédaction du journal qui l'a modifié, je n'en sais rien. En tout cas, les auteurs de cet ouvrage pensent avoir trouvé ce qu'ils appellent un remède à portée de main, je cite, à la lutte contre le chômage. Ce remède à portée de main consisterait en une simplification drastique du droit du travail qui serait ramené à 50 principes qui sont présentés comme autant de poutres maîtresses de cet édifice. Alors, cet exercice doctrinal consistant à essayer de ramener le droit du travail à une liste de principes n'est pas tout à fait nouveau. Il a un précédent, aujourd'hui largement tombé dans l'oubli, mais que je vous recommande cependant, parce qu'il était remarquablement novateur et à certains égards, me semble-t-il, beaucoup plus novateur que le texte dont nous parlons. Ce précédent, c'est la Déclaration des droits sociaux que George Gurevitch a écrit en 1944 à New York, dans un moment, vous vous souvenez, historique, qui était certes très favorable à repenser les bases de l'État. Et dans ce projet de Déclaration des droits sociaux, qui a été heureusement réédité par le professeur Herrera en 2009, on trouve maintes dispositions qui frappent aujourd'hui encore par leur audace. Par exemple, Gurevitch prévoyait la distribution aux travailleurs, en plus du salaire, de ce qu'il appelait des actions du travail, nominales et non transmissibles, qui constitueraient une sorte de pécule susceptible de s'accroître avec le temps et dont chaque salarié pourrait disposer en cas de changement de sa situation professionnelle. On pourrait s'inspirer de cette idée, aujourd'hui encore, pour concevoir les comptes personnels d'activité dont la création a été annoncée par la loi Rebsamen du 17 août 2015. On ne trouve aucune audace ou nouveauté de ce genre dans la Déclaration des droits du travail de messieurs Badinter et Antoine Lioncamp, dont l'objectif affiché est de simplifier le droit existant et non pas de proposer de nouveaux droits, qu'appelleraient les temps présents. Mais on pourrait s'attendre au minimum à retrouver dans leur liste et dans leur déclaration des droits du travail les principes et droits fondamentaux déjà consacrés par le pacte international dont nous avons parlé, ou par le droit français. Mais ce n'est pas le cas, et les meilleurs auteurs ont aussitôt relevé dans cette liste l'absence de deux droits fondamentaux. Tout d'abord, le droit de grève. Dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Ce droit est visé à l'article 8 du pacte, comme complément de la liberté syndicale. En revanche, dans la Déclaration des droits du travail, la rubrique « Défense des intérêts du salarié » ne mentionne que le droit syndical. Et le professeur Emmanuel Dockès s'est étonné dans une tribune de cette disparition des droits de grève, qui peut difficilement s'expliquer par la limitation de cette déclaration des droits du travail à ceux que le salarié tire du contrat de travail, puisqu'en France, le droit de grève est au même titre que la liberté syndicale, une liberté individuelle s'exerçant collectivement. Ça, c'est une nuance du droit français. Dans d'autres systèmes juridiques, le droit de grève, on considère que ce sont les syndicats qui en sont titulaires, donc c'est un droit collectif. Dans les montages français, ça mériterait un long développement parce que c'est particulièrement intéressant et particulièrement caractéristique de la culture juridique du droit du travail français, on part de l'individu. L'individu a une liberté individuelle, mais cette liberté ne peut être exercée que collectivement. Donc cela ressort bien au même titre que la liberté syndicale. C'est une liberté de se syndiquer, mais vous n'êtes pas obligé de vous syndiquer. Autre disparition dans cette entreprise de simplification, le droit à un salaire minimum. Le pacte, à vrai dire, ne parle pas, emploie la notion de minimum, mais il n'impose pas véritablement l'édiction d'un salaire minimum commun pour tous. Nous allons le voir, ceci est en revanche un principe reconnu en droit français. Vous noterez dans la Déclaration des droits du travail que la référence cependant à une existence décente n'englobe pas, à la différence de ce qu'il y a dans le pacte, le salarié et sa famille. Hein. Donc dans l'article 7 du pacte, il renvoie une existence décente pour eux et leur famille. Tandis que la vie libre et digne ne concerne chez nos auteurs que l'individu salarié qui lui assure. Mais le plus notable est évidemment la disparition de toute idée de salaire minimum, alors que le droit au SMIC est reconnu depuis 1982 par le Conseil d'État comme un principe général du droit. Ce principe a été reconnu dans un arrêt Ville de Toulouse du 23 avril 1982. Selon une technique aujourd'hui bien rodée, le Conseil d'État tire de certaines dispositions du droit du travail, il induit l'existence d'un principe général du droit qui pourra s'appliquer au-delà du champ d'application du droit du travail. Et c'est ce qui était le cas dans cette décision Ville de Toulouse, où il s'agissait d'un agent public qui ne relevait donc pas des dispositions du Code du travail en matière de rémunération, mais de dispositions de droit public, et qui réclamait à la ville de Toulouse le bénéfice du salaire minimum. Et le raisonnement du Conseil d'État consiste à dire ce salaire minimum est prévu dans le Code, mais le Code du travail ne fait que s'inspirer d'un principe général du droit qui a donc un champ d'application plus large. Et Jean-Jacques Dupérous, dans son commentaire du texte de messieurs Badinter et Lioncan, qu'il a publié en Nouvel Observateur du 27 août, n'a pas manqué de relever cette disparition du salaire minimum, et d'autant plus qu'elle va de pair dans ce projet doctrinal de déclaration des droits du travail avec la consécration étrange dans le même temps de la prescription triennale des créances de salaire. Si nous y revenons, vous voyez, c'est l'article 44 du projet de déclaration, l'action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans. Il faut savoir que la prescription de droit commun, des créances, par exemple si le salarié est le locataire de son patron aura 5 ans pour demander le paiement des salaires. Et donc la prescription pour la créance de salaire est une courte prescription qui est une dérogation aux dispositions de droit commun. Et bien dans cette déclaration, cette disposition technique qui est défavorable aux salariés est érigée en principe fondamental, en poutre maîtresse du droit du travail, ce qui n'a pas manqué de surprendre M. Dupeyron. Or, ces deux disparitions interviennent dans un contexte qui permet de les éclairer. Vous le savez, le salaire minimum est la cible ancienne d'un certain nombre d'économistes qui croient avoir trouvé aussi dans son abolition un autre remède à portée de la main pour lutter contre le chômage. Ceci, nonobstant la toute récente instauration en Allemagne d'un salaire minimum pour faire face justement à la montée des travailleurs pauvres dans ce pays, et alors même que le droit allemand est donné quotidiennement en modèle aux Français. Donc on pourrait s'étonner, puisque c'est le droit allemand qu'il faut suivre, mais cette contradiction ne doit pas vous surprendre, dans la mesure où l'écoute même distraite des médias vous aura convaincu que la pratique du droit comparé dans les milieux politiques ou médiatiques est une pratique un peu sauvage et elle ignore les règles de base du droit comparé. Je dirais qu'on pratique le droit comparé de la même façon que le docteur Frankenstein, qui rêvait de façonner un homme nouveau, pratiquait la chirurgie. Donc on nous enjoint chaque jour de régénérer le droit français en lui greffant divers morceaux prélevés sur le droit allemand, anglais, suédois ou américain, dont le calcul économique montrerait la plus grande efficacité. Donc on se met à rêver d'un droit français qui aurait une tête, je ne sais pas, une tête anglaise, des muscles allemands, un cœur suédois, etc. Le tout sans considération aucune du droit en tant que système complexe et dans l'ignorance du contexte, de la culture et de l'histoire propre de chacune de ces traditions juridiques. En réalité, il y a de bonnes raisons de penser qu'une bonne politique de réforme n'a de chance de succès que pour autant qu'elle s'appuie justement sur une tradition et une culture, cette tradition et cette culture offrant la meilleure base pour faire du neuf, pour inventer la modernité. Et en tout état de cause, tout comparatiste un peu informé sait que de tels assemblages ne seraient pas viables. Quant à la disparition du droit de grève de la liste de ceux qui sont destinés à assurer la défense des intérêts du salarié, elle intervient aussi dans un moment et dans un contexte particulièrement sensible que nous avons longuement évoqué l'an dernier. La représentation des employeurs à l'OIT, je vous le rappelle, a engagé une lutte frontale contre la commission d'experts du BIT qui déduisait depuis des lustres la reconnaissance du droit de grève de celle de la liberté syndicale. Et là se trouve l'origine de la crise qui secoue depuis 2012 le système de contrôle des normes internationales du travail. Donc la volonté de restreindre le droit de grève est aussi manifeste dans la jurisprudence de la Cour de justice européenne depuis ses arrêts Laval et Vaïki. Donc je ne veux pas dire par là, en aucune façon, bien entendu, que nos auteurs aient vraiment entendu porter atteinte au droit de grève, qui de surcroît est un principe à valeur constitutionnelle en France. Mais à partir du moment où on fait une liste de principes fondamentaux, c'est curieux de ne mettre ni le SMIC ni le droit de grève, et de mettre en revanche la prescription triennale des paiements des salaires. Alors ce petit détour par l'actualité française vous aura convaincu, je l'espère, que la consécration de certains droits sociaux par le pacte international peut être un frein utile aux entreprises de déconstruction du droit du travail. C'est aussi vrai, d'ailleurs, des conventions de l'OIT, comme l'a montré le naufrage que nous avons évoqué la dernière fois du CNE, imaginé par les économistes de M. Villepin, sur l'écueil de la convention numéro 158. Nous avons ici un bon exemple, d'ailleurs, de l'ambivalence de la forme juridique, qui est à la fois un instrument et un frein du pouvoir. Il serait certes possible que la France dénonce la convention 158, pour avoir les mains libres pour que les licenciements puissent se passer sans motif, comme l'a réclamé le président du MEDEF. Mais une telle démarche obligerait à plus de réflexion et de débat que la transcription juridique immédiate des ordonnances des économistes pour remédier au chômage, telles la suppression du SMIC, le contrat unique ou autres recettes miraculeuses. En fait, le droit fonctionne un peu, pour ceux qui ont fait de la navigation, comme une ancre flottante. La forme juridique freine la dérive des pays qui sont soumis au vent des idéologies, sans arrêter pour autant le cours de l'histoire. Et cette force juridique réelle des normes sociales internationales, elle est réelle, mais elle ne concerne toutefois que les États qui les ont ratifiées. Or, avec l'effacement des frontières du commerce, la question se pose aujourd'hui de l'opposabilité directe de ces normes aux entreprises. Dans l'ordre traditionnel, juridique traditionnel, ancien, les entreprises étaient tenues à respecter les normes internationales parce qu'elles étaient placées sous la tutelle des États. Et donc, à partir du moment où les États devaient mettre en œuvre ces normes, les entreprises qui opéraient dans un pays donné étaient soumises, elles aussi, à ces normes. La situation change à partir du moment où les entreprises, avec l'effacement des frontières du commerce, peuvent considérer le monde comme un échiquier sur lequel elles vont pouvoir pratiquer ce qu'on appelle le « law shopping » ou le « forum shopping » en choisissant les législations les plus avantageuses. D'où la question qui, aujourd'hui, vis-à-vis des normes sociales internationales, est la question la plus importante, je dirais, qui est de savoir si elle s'applique aux entreprises multinationales. Et donc, je vais m'arrêter un instant sur cette... Enfin, plus qu'un instant, un petit moment sur cette question. Comme je viens de le dire, l'effacement des frontières du commerce émancipe les entreprises, largement les grandes entreprises, de toute tutelle publique. Et elles s'organisent en chaînes internationales de production et tirent leur valeur désormais moins de la détention matérielle des moyens de production, qui était l'élément central dans le monde industriel traditionnel. C'était la propriété des moyens de production. Aujourd'hui, la valeur de ces grandes entreprises vient moins de la propriété directe de ces moyens de production que de la conception et du contrôle de systèmes d'information qui relient les différents maillons des chaînes de production et de distribution. Donc, le cœur du pouvoir économique s'est déplacé de la propriété matérielle d'un certain nombre de biens de production à la propriété intellectuelle ou, ça c'est au sens précis du terme, ou plus largement au contrôle de systèmes d'organisation et de communication internationale. Comme nous l'avons vu lorsque nous avions parlé de la gouvernance par les nombres, ce type d'organisation conduit évidemment à une dissémination des responsabilités dans des réseaux de dépendance qui reposent non plus sur l'obéissance, comme dans le cas du lien de subordination salarié traditionnel, mais sur la réalisation d'objectifs chiffrés qui sont déclinés dans la cascade des filiales, sous-traitants et fournisseurs. Avec, bien sûr, le risque de permettre à ceux qui tissent ces réseaux et en tirent profit de se défausser de leurs responsabilités sur des lampistes. En cas d'accident du travail, par exemple, ou de pollution, ou de faillite du sous-traitant, seule la responsabilité de ce dernier sera recherchée, tandis que le donneur d'ordre, qui a conçu et contrôle le système de production générateur de ces dommages, échappera à la juridiction des États sur le territoire desquels ils adviennent. Nous en avions étudié un exemple particulièrement dramatique dans l'affaire du Rana Plaza, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Vous vous souvenez par exemple de l'affaire de la vache folle, il y a quelques années, enfin, c'est presque décade maintenant, hein, je crois bien. Bon, donc vous aviez des éleveurs intégrés, pris dans les... Ça se passait dans le cadre des contrats d'intégration prévus par la loi de 1964, si ma mémoire est bonne, qui se présentaient comme des entrepreneurs indépendants et responsables. Mais en réalité, ils ne contrôlaient rien, puisqu'on leur donne des animaux, on leur donne les consignes sur la façon de les élever, on leur donne les médicaments qui doivent leur être injectés, on leur donne la nourriture qui doit leur être donnée. Donc, en réalité, ils sont dans une situation extrêmement proche du salariat sans avoir les protections correspondant au salariat. Le monde agricole a vraiment été une sorte d'avant-courrier de la déconstruction de la relation salariale de ce point de vue. Et lorsqu'un accident advient, on s'aperçoit que le produit est dangereux. À ce moment-là, la seule personne juridique vers laquelle on va pouvoir se tourner, c'est cet éleveur qui, en réalité, ne contrôle rien, parce que la réalité du contrôle du système de production se trouve ailleurs. Et donc, c'est une des grandes questions que nous avions évoquées dans le séminaire de l'année dernière, sur laquelle nous allons revenir dans le séminaire cette année, qui est de savoir comment on peut reconnecter dans ces chaînes de production l'exercice réel du pouvoir économique avec la distribution des responsabilités. Pour la plupart des dirigeants des grandes entreprises, relayés par les dirigeants politiques soucieux d'attirer les investisseurs sur leur sol, la globalisation doit s'entendre comme la possibilité de développer une action économique qui échappe à toute contrainte juridique, ou au moins de contrainte juridique possible. Cette vision a été résumée en ces termes, il y a une quinzaine d'années, par l'ancien président d'un groupe suisse, ASEAN Brown Boveri, M. Percy Barnevik, qui disait ceci: « Je définirais la globalisation par la liberté pour mon groupe d'investir où il veut, le temps qu'il veut, pour produire ce qu'il veut, en s'approvisionnant et en vendant où il veut, et en ayant supporté le moins de contraintes possibles en matière de droit du travail et de conventions sociales. » Donc c'est l'aspiration aux moins de responsabilités possibles, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cette irresponsabilité des entreprises transnationales trouve sa limite lorsqu'elle entraîne des catastrophes de grande ampleur du type du drame du Rana Plaza que nous avons étudié il y a 2 ans. Et leur émancipation de la tutelle publique révèle alors son ambivalence, car elles ne peuvent plus compter sur la protection d'un État et se trouvent exposées au risque d'être clouées à un pilori médiatique mondial qui peut mettre même leur existence en péril. On retrouve ici cette ambivalence de la notion d'émancipation qui a été évoquée aussi dans les années précédentes, qui en droit romain c'était une sanction. Hein. Quand vous aviez un gamin insupportable, vous l'émancipiez, c'était hors de la maison et hors des protections. Donc il accédait à la liberté juridique, mais il était privé des protections. Il faut toujours penser à cette ambivalence de la notion d'émancipation. Donc les entreprises transnationales sont certes émancipées de toute règle étatique définie, elles peuvent jouer les règles, les systèmes les uns contre les autres, mais en revanche, elles courent des risques face auxquelles elles vont se retrouver seules. Et conscientes de ces périls, la plupart d'entre elles se réclament de ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale. Alors maintenant, on dit sociétale, c'est un mot qui a du succès. Et en anglais, corporate social responsibility. Donc, quelle est l'idée ? C'est que, animées par la morale ou par l'intelligence de leurs intérêts à long terme, ces grandes entreprises prétendent s'engager sur une base purement volontaire au service de la sécurité et du bien-être de tout ce qu'elles appellent leurs parties prenantes, vient de l'anglais « stakeholders », c'est-à-dire leurs salariés, leurs clients, mais aussi leurs tenanciers. Là, j'emploie la terminologie que j'avais avancée au sujet de la définition des liens d'allégeance, c'est-à-dire leurs filiales, sous-traitants, fournisseurs. Si on gratte un peu en tant que juriste avec un petit peu de culture historique de l'histoire du droit social, la responsabilité sociale des entreprises n'est pas quelque chose de neuf, et ça nous rappelle une des pratiques qui ont été largement développées au XIXe qu'on appelait les pratiques de paternalisme. Le paternalisme, lui aussi, consistait dans un contexte où il n'y avait pas d'obligation légale pesant sur les patrons de s'occuper du bien-être de leurs salariés, de leurs charges de famille, de leur logement, de leur éducation, de s'en soucier sur une base purement volontaire et de développer ce qu'on appelait les œuvres sociales. Donc, derrière la RSE, ce qui ressurgit, ce sont ces techniques mais elles ressurgissent à l'échelle internationale et non plus à l'échelle nationale, comme ça avait été le cas avant l'édification de l'État social. Voici par exemple la façon dont le groupe pétrolier Total présente ses engagements en ce domaine sur son site. Alors, il y a une liste de rubriques. Oui, c'est absolument illisible. Bon, donc, mais ces rubriques, vous y trouverez toutes les grandes rubriques de la responsabilité sociale, c'est-à-dire l'affirmation d'une mission, ça c'est très important, on le retrouve sur toutes les entreprises, consiste à dire, écoutez, il n'y a pas que l'oseille, si je puis me permettre. Donc, nous cherchons à faire des profits, mais nous sommes animés par d'autres préoccupations que les profits. Donc, nous avons une mission d'intérêt général qui transcende la recherche du profit. C'est le premier point de cette liste. Et puis, autrement, les rubriques, c'est la protection de l'environnement et de la santé, de la sécurité des personnes, le soutien des pays en développement, le bien-être des salariés et le respect des droits de l'homme. Alors, le respect des droits de l'homme, je m'arrête un peu sur ce point, puisque ça donne lieu, ce sont des arborescences, si vous allez sur le site de Total. Donc vous avez une sous-rubrique sur le respect des droits de l'homme, où, avec une citation du défunt président de Marjorie, sur l'intérêt qu'il y a à s'engager dans cette défense. Sauf exception, ces engagements participent de ce qu'on appelle la « soft law », qui est généralement traduit par « droit mou ». Comme vous l'aurez noté, cette page de Total sur les droits de l'homme est placée sous la rubrique, c'est en haut en rouge là, « campagne publicitaire ». Et l'entreprise y présente le respect de ses droits comme un engagement volontaire qui vise à se faire, je cite M. de Margerie, « se faire mieux accepter dans les pays pauvres » et non pas comme une obligation juridique. Donc, du point de vue de l'analyse juridique, la force normative de ce type d'engagement va dépendre de la sincérité de ceux qui les prennent. De nombreux signes, toutefois, montrent qu'à l'instar de ce qui s'est passé pour le paternalisme au XIXe, ce droit mou a vocation à se durcir. Donc, c'est présenté comme des engagements purement volontaire, l'entreprise reste libre de faire ce qu'il veut, mais il y a beaucoup de signes dont nous allons parler qui montrent que d'autres, les partenaires de l'entreprise, vont les prendre au mot en disant « vous dites que vous êtes responsable, eh bien, on va voir ce qu'on va voir, vous allez l'être ». C'est particulièrement le cas lorsqu'une entreprise est prise la main dans le sac de la violation grossière des règles imposées par les droits nationaux. La parole des entreprises concernées est alors frappée d'un discrédit total. Par exemple, comment, après le scandale qui vient d'éclater, ne pas rire, enfin, rire jaune, mais c'est la forme de rire là, qui nous reste, des déclarations de responsabilité sociale du groupe Volkswagen se présentant comme une entreprise citoyenne. J'étais tant fasciné par cette page que je voulais traduite en français. Donc, Volkswagen commence par dire qu'il construit Das Auto plus de 6 millions de fois par an, qu'il transporte des millions de personnes, ce qui est vrai, et que ne fait pas que cela, c'est que cette production consomme des ressources et émet des polluants. Et ces effets négatifs doivent être réparés, et finalement, les voitures doivent être réparées et récupérées. Donc, les voitures ayant un impact significatif sur la santé humaine, l'environnement et la société, il en résulte à l'évidence pour l'entreprise une responsabilité particulière. Et vient ainsi l'affirmation que Volkswagen va agir comme une entreprise citoyenne. Nous nous considérons comme une entreprise citoyenne qui évalue son activité de façon responsable et en tire les conséquences quant à ses obligations. Vous retrouvez aussi l'idée... tout ce que nous faisons ne doit pas être uniquement dicté par la réussite économique. C'est le même argument que celui que j'évoquais tout à l'heure. Nous ne sommes pas animés seulement par la recherche du profit. mais aussi par la protection de l'environnement et des besoins sociaux. Comme Total, Volkswagen affirme donc ne pas être poursuivre des objectifs d'intérêt général qui englobent même le souci des générations futures. La référence à la notion d'entreprise citoyenne est devenue peu fréquente en France. Elle était à la mode dans les années 90. Il y a eu toute une vogue de la citoyenneté de l'entreprise. Ça s'est un peu essoufflé en France, mais vous voyez, ça conserve une valeur dans la présentation de soi des entreprises allemandes. Ce qu'il faut retenir du point de vue juridique, c'est que cette déclaration de responsabilité est présentée comme un engagement volontaire, puisqu'il est question de la mise en œuvre entrepreneuriale du principe de durabilité. Donc c'est mise en œuvre entrepreneuriale. Donc ça, c'est un engagement volontaire. Alors, relire ces déclarations de responsabilité de la part d'une entreprise dont on sait qu'elle les a trahies conduit évidemment à s'interroger sur les moyens de leur donner une certaine forme juridique. Je fais une petite parenthèse sur les raisons de cette trahison, parce que c'est une illustration de plus de ce que nous avions vu il y a 2 ans dans la gouvernance par les nombres. Si des informations qu'on a pu avoir, les salariés concernés, qui étaient des cadres, des ingénieurs de Volkswagen, devaient respecter 2 types d'objectifs chiffrés. Parce que c'est comme ça que se fait, direction par objectif. D'une part, ne pas dépasser un maximum de coûts, et d'autre part, ne pas dépasser un maximum d'émissions polluantes. Quand vous êtes pris dans la gouvernance par les nombres de ce type, avec des consignes qui sont en réalité intenables parce qu'elles méconnaissent le principe de réalité, il y a 2 solutions pour les travailleurs. Soit la dépression nerveuse et le suicide, ce qu'on voit dans de nombreuses entreprises, ce sont des questions que nous avions évoquées dans le cours aussi, soit la fraude, qui était la solution couramment utilisée sous le Gosplan. On vous donne des objectifs, c'est pas possible, mais vous arrangez pour que ça quand même les réaliser, bien que ça soit impossible. Bon. C'est ce qu'ils ont fait, hein. C'est assez malin leur affaire de logiciel. Alors, cela dit, maintenant, c'est la catastrophe. Une vraie catastrophe pour cette entreprise. Et l'une des questions qu'on peut se poser, c'est, et là ils vont devoir répondre, effectivement, devant les juridictions nationales. D'une façon générale, est-ce qu'on peut donc voir dans les grandes entreprises des sujets du droit international qui pourraient être directement sanctionnés pour violation des normes sociales internationales? Cette question est très débattue en doctrine, chez mes collègues, les spécialistes de droit international, ce que je ne suis pas, et elle a donné lieu à des travaux récents, parmi lesquels je vous signale ceux qui ont été dirigés par messieurs Guérari et Kerbrat, ou par le professeur Emmanuel Decaux. Vous trouverez également un état de la question dans la contribution aujourd'hui publiée de madame Chemillet-Gendreau, au séminaire de la chaire de 2014, qui a donc été publié chez Dalloz. Un premier élément de réponse à cette question n'est contesté par personne. Ce premier élément est le suivant. Le droit international peut être la source indirecte de droits, mais aussi de devoirs pour les personnes privées. Donc, en principe, le droit international ne connaît que les sujets États, mais, de par ses normes, indirectement, il crée des droits et des devoirs pour des personnes privées. Ce point a été affirmé dès 1928 par la Cour permanente de justice internationale, selon laquelle un traité international peut conférer à des particuliers un ensemble de droits et d'obligations susceptibles d'être appliqués par les tribunaux nationaux. Donc c'est un effet par ricochet. Et ce sont les tribunaux nationaux qui sont à ce moment-là les garants du respect de la norme internationale. Ce que je retiendrai dans cette formule, c'est le lien établi entre droit et obligation. Et ce lien trouve une actualité nouvelle aujourd'hui avec l'essor des traités d'investissement. Alors, les traités d'investissement, vous en avez sûrement entendu parler parce que c'est l'un des points chauds dans les débats sur la négociation en cours du traité intercontinental de libéralisation du commerce entre les États-Unis et l'Europe. Et l'un des points d'inquiétude, c'est la possibilité de recourir à des tribunaux d'arbitrage. C'est un point sur lequel nous reviendrons longuement. Lorsqu'elle n'était pas assurée par la pratique néocoloniale des traités inégaux, ce qui a été par exemple le cas des traités imposés au Japon au XIXe siècle. Parce que dans ce cas-là, dans le cas de traités inégaux, vous aviez les puissances occidentales arrivaient dans un pays du Sud et puis imposaient des conditions favorables à leurs propres entreprises au détriment des États concernés. Bon. Alors ça appartient en principe, au moins formellement, à une époque révolue. Mais jusqu'aux années 60, la protection des entreprises qui investissaient dans un pays étranger était assurée par la protection diplomatique que l'État doit à chacun de ses ressortissants. Elle pouvait aussi donner lieu à la création de tribunaux mixtes qui avaient pour mission spécifique de résoudre les litiges concernant ces entreprises. Donc on restait dans des systèmes où il y avait des tribunaux publics qui pouvaient, devant lesquels on pouvait attraire ces entreprises, où ces entreprises pouvaient se plaindre, le cas échéant, du traitement dont elles faisaient l'objet dans les États. Par une ironie de l'histoire assez fréquente, c'est dans une résolution des Nations Unies qui était destinée à affirmer la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles qu'un autre dispositif de protection a vu le jour, qui depuis a fleuri et prospéré, c'est celui des accords d'investissement entre États. Et c'est ce dispositif qui est aujourd'hui massivement utilisé pour restreindre la souveraineté des États. C'est là qu'il y a l'ironie, puisque c'est cette résolution de 1962, on est encore à l'époque où les États, notamment les États du Sud, veulent affirmer fermement la maîtrise de leurs ressources naturelles face aux entreprises et aux appétits des entreprises du Nord. Donc cette résolution vient réaffirmer que les États sont maîtres de leurs ressources, qu'elles sont à la disposition du bien-être de leur population, qu'elles peuvent exproprier moyen indemnisation les entreprises si elles le souhaitent. Mais on ajoute un alinéa 8 selon lequel les accords relatifs aux investissements étrangers librement conclus par des États souverains ou entre de tels États seront respectés de bonne foi. Donc on ouvre la possibilité de négocier d'État à État des accords d'investissement. Et cette voie a été empruntée massivement. Depuis cette époque, plus de 3000 accords d'investissement ont été signés et il s'agit le plus souvent d'accords de promotion et de protection des investissements conclus entre deux ou plusieurs États, soit dans des traités ad hoc, qui sont signés spécialement pour cet effet, soit dans le cadre d'accords de libre-échange. C'est le cas du traité intercontinental que j'évoquais à l'instant. Et ces accords ont permis d'opérer ce que le professeur Vignoualès, dans notre colloque sur l'entreprise sans frontières, avait nommé une révolution silencieuse. Cette révolution est intervenue à partir du moment où a été admis en 1990 la possibilité pour un investisseur étranger d'agir directement contre l'État d'accueil devant un tribunal arbitral. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on était accord entre États. En cas de contentieux, c'est un État va être en contentieux avec un autre, éventuellement les juridictions internationales, mais les entreprises n'apparaissent pas comme des sujets du droit international. En 1990, il y a une sentence arbitrale qui admet la possibilité pour les entreprises d'attaquer directement les États devant des arbitres. Alors, nous aurons l'occasion de revenir sur ces clauses d'arbitrage. Le seul point à retenir à ce stade est que ces accords confèrent aux entreprises concernées le droit de saisir elles-mêmes directement l'organe d'arbitrage d'un organisme international qui s'appelle le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, le CIRDI. Ce centre a été créé en 1965 sous l'égide de la Banque mondiale par la Convention de Washington. Et c'est un dispositif auquel ont adhéré tous les pays occidentaux, à la différence de certains pays émergents, comme par exemple, vous le voyez sur cette carte, le Brésil, l'Inde ou l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça montre que, au plan international, les entreprises apparaissent vraiment comme des sujets de droit, ayant une capacité d'agir en justice au plan international. Aucun dispositif protecteur de ce genre n'existe ni pour les personnes physiques victimes d'atteintes aux droits de l'homme, ni pour les associations ou les syndicats susceptibles de les représenter. Autrement dit, les entreprises disposent en droit international pour assurer la protection de leur propriété et de leur profitabilité économique de droits qui sont exorbitants du droit commun. Et nous verrons d'ailleurs qu'il en va de même en matière de protection de leurs droits de propriété industrielle. On va y passer un certain temps, on va parler de médicaments, mais ce sera la prochaine fois, de pharmacie. À ces droits devraient donc correspondre des obligations également exorbitantes du droit commun. Or, à l'heure actuelle, ces obligations relèvent, nous venons de le voir, de la soft law, c'est-à-dire de dispositions non contraignantes du type des chartes et codes de conduite que nous venons d'évoquer. Donc, il y a des droits sans devoirs. Bon, alors, c'est ça qui est une situation problématique et dont on peut penser qu'elle ne sera pas tenable à long terme. C'est une des raisons pour lesquelles on peut penser que la RSE est appelée à se durcir. Mais dans un premier temps, les organisations internationales se sont bornées à accompagner ce mouvement de soft law. La première à l'avoir fait, c'est l'OCDE, c'est-à-dire l'Organisation de coopération et de développement économique, qui a élaboré un cadre normatif qui s'appelle les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, qui a été mis à jour, ça date de 1976, il a été mis à jour régulièrement et en dernier lieu en 2011. C'est une sorte de kit prêt à l'emploi pour les entreprises qui veulent s'engager dans une démarche de responsabilité sociale. On leur fournit une sorte de modèle et ces principes couvrent un large domaine qui va des obligations d'information aux obligations fiscales, en passant par les questions de travail, d'environnement, de lutte contre la corruption, de droit des consommateurs, de développement scientifique et technologique et de concurrence. Ce qui est intéressant dans le dispositif de l'OCDE, c'est qu'une procédure de suivi des principes est organisée dans les pays qui y ont souscrit. Elle repose sur des points de contact nationaux qui peuvent être appelés à connaître des problèmes de mise en œuvre des chartes d'entreprise. Ces points de contact par exemple, ont joué un rôle, par exemple, dans l'affaire du Rana Plaza, un rôle extrêmement positif. L'initiative de l'OCDE a conduit l'Organisation internationale du travail à adopter l'année suivante, c'est-à-dire en 1977, à son tour, ce qui s'appelle une déclaration de principe tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT. Donc c'est un document, on l'appelle la déclaration tripartite de l'OIT. La logique est la même que les principes directeurs de l'OCDE. Donc c'est quelque chose de prêt à l'emploi, qui est offert à l'emploi, qui s'adresse au gouvernement, aux organisations de travailleurs et d'employeurs et aux entreprises multinationales. La différence avec celle de l'OCDE, c'est que cette déclaration porte sur les normes sociales et en offre un éventail plus détaillé que celui de l'OCDE, avec une procédure de suivi qui est conforme aux méthodes habituelles de l'OIT, qui repose sur des questionnaires adressés tous les 3 ou 4 ans au gouvernement et aux organisations syndicales et patronales, ainsi que sur une procédure d'interprétation qui est confiée à une commission tripartite. Donc, nous avons eu aussi des initiatives du même genre au plan régional, qui ont vu le jour, notamment de la part de la Commission européenne. Elle a consacré diverses communications à la responsabilité sociale et elle publie régulièrement des études de bonnes pratiques, conformément aux méthodes de sélection de normatives que nous avons étudiées dans le cadre de la gouvernance par les nombres. Avec l'idée qu'il faut permettre une émulation des meilleures pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale. Donc, on ne va plus réglementer, on ne va pas réglementer les entreprises, on respecte leur liberté, on les engage à faire preuve de responsabilité, et puis on fait connaître les meilleures pratiques en disant ça va créer une émulation et vont faire une course vers l'excellence en matière de responsabilité sociale et environnementale. Cet essor de la responsabilité sociale a été très explicitement présenté par le Conseil européen et la Commission comme la contrepartie de la déréglementation. C'est un deal. Ça, c'est une déclaration du Conseil européen des 22 et 23 mars 2005. L'Union européenne doit parachever son marché intérieur et se doter d'un environnement réglementaire plus favorable aux entreprises. Ça, c'est le volet « on va déréglementer », desserrer les normes. Mais les entreprises, de leur côté, doivent développer leur responsabilité sociale. Donc, si vous vous engagez volontairement, il y aura moins de droits. Donc, on va passer du dur au mou. Bon, vous allez pouvoir éviter le dur en vous engageant vous-même dans le mou. C'est le marché. C'est la doctrine au plan européen. Ce qui la distingue, l'OIT ne présente pas du tout sa déclaration tripartite en ces termes. Mais c'est la façon dont c'est compris dans les institutions européennes. Alors, toutes ces initiatives font qu'il y a une sorte d'offre normative qui s'est développée, qui vise à convaincre les entreprises de se référer volontairement aux principes ou à la déclaration tripartite. On est ici en présence de ce qu'on peut appeler un self-service normatif. D'ailleurs, le BIT a publié un guide à l'intention des utilisateurs de la déclaration tripartite. Donc, c'est une façon de concevoir les normes. Donc, vous avez une offre et puis il y a des utilisateurs et on va aider les utilisateurs à mettre ces normes en pratique. Donc, les principes sont offerts aux entreprises qui sont invitées à choisir dans cette offre ce qui convient à leurs besoins. Alors, aux Nations Unies, là, voilà à peu près le tableau de la situation jusqu'au début des années 2000. Aux Nations Unies, des initiatives ont été prises aussi pour essayer d'accompagner ce mouvement. Et ce sont les choses les plus récentes et les plus remarquables dont je vais vous parler maintenant, parce que ce que je viens de dire est assez connu des spécialistes. Aux Nations Unies, le secrétaire général a désigné en 2006 un représentant spécial, le professeur John Ruggie, en lui demandant d'étudier la question de l'application des droits de l'homme par les sociétés transnationales. Alors, le professeur Ruggie a travaillé très sérieusement et il a remis en 2011 un rapport qui est intitulé Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et deux points mise en œuvre du cadre de référence protégé, respecté et réparé. Alors, les Nations Unies ont adopté ce document et donc ont adopté ce cadre de référence qui est proposé comme un cadre de référence aux multinationales en matière de respect des droits de l'homme. Et ce cadre de référence repose sur trois piliers qui sont ainsi présentés. Premier pilier, une obligation de protéger qui incombe à l'État lorsque des tiers, y compris des entreprises, portent atteinte aux droits de l'homme. Deuxième pilier, la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme, autrement dit, de faire preuve de diligence raisonnable. Je vais commenter ce point. Et troisième pilier, la nécessité d'un accès plus effectif à des mesures de réparation judiciaire ou non judiciaire. Vous remarquerez dans cette présentation du cadre de référence la différence entre les États qui ont des obligations. Le mot dans l'original anglais est « duty », donc c'est des devoirs des États, alors que les entreprises n'ont que des responsabilités, et la version anglaise aussi est plus clair, puisqu'on parle même de corporate responsibility, donc c'est une référence directe à de la soft law. Cette autre chose à noter, c'est la façon dont cette responsabilité est définie. Elle est définie en termes de diligence raisonnable. Alors ça, c'est une notion qui est en plein essor, la notion de diligence. C'est la traduction de l'anglais « due diligence ». La notion de « due diligence » est apparue en droit américain en 1933. Dans le sillage de la crise de 1929, pour définir les obligations d'information pesant sur les vendeurs de valeurs mobilières. Il s'agissait d'essayer de limiter la façon de plumer le pigeon de la part des vendeurs d'actions et de valeurs mobilières. Donc on disait qu'il y avait une obligation de due diligence. Elle a été introduite récemment en droit français pour obliger les banques à s'inquiéter de l'origine des fonds qu'elles collectent. C'est dans le Code monétaire et financier, l'article L561-6, où il est dit que les établissements financiers doivent exercer sur la relation d'affaires. Alors, la terminologie n'est pas d'une précision extraordinaire, hein, mais c'est un des problèmes qu'on va rencontrer. Exerce sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante. C'est pour éviter les pratiques de blanchiment, très clairement dans le cas du Code monétaire et financier. Notion de vigilance ici. Vigilance. Dans vigilance, il y a vigie. La vigie, c'est ce matelot qui est en haut du mât et qui observe. Et la première question qui est posée par le devoir de vigilance est celle du champ d'observation, du périmètre d'observation assigné à son titulaire. Lorsqu'on parle de responsabilité des entreprises, en effet, on parle de contrepartie de la liberté d'entreprendre. Mais cette liberté s'exerce au travers de montages juridiques qui permettent justement aux responsables de disparaître derrière les masques des personnes morales que sont les sociétés. Alors, est-ce que vous me suivez là? Vous voyez, c'est bon. Le principe, entreprise, à mon sens, je l'ai dit lors de notre colloque, si on veut comprendre quelque chose, il faut partir de la notion de liberté. C'est d'abord une liberté d'entreprendre. C'est-à-dire, si on raisonne en termes de contrat d'institution, on ne s'y retrouve pas parce que l'entreprise, c'est quelque chose de différent de la société commerciale, des systèmes de société, des liens contractuels avec des fournisseurs. Donc, c'est la mise en œuvre d'une liberté. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette liberté, vous allez pouvoir faire surgir des êtres juridiques nouveaux qui sont, alors je vais vous dire pourquoi, des masques. Et donc, ce n'est plus l'identification du sujet de droit. Mon éleveur, par exemple, de vaches folles, va vous protéger, vous, si vous êtes l'entreprise agroalimentaire qui a conçu le système d'alimentation de ces bêtes. Donc, vous voyez, le problème que l'on a, c'est que quand on parle de responsabilité sociale des entreprises, on parle de l'entreprise, mais cette notion ne renvoie à une liberté qui permet de construire des dispositifs juridiques qui, justement, font que l'entrepreneur va pouvoir échapper à toute responsabilité. C'est ça, le problème. Pourquoi je dis des masques à propos des personnes morales? Parce que la notion de personnalité juridique trouve son origine latine et romaine dans la notion de masque. Bon, c'est un point que j'avais assez longuement étudié dans un livre qui s'appelle « Homo Juridicus ». Et en droit romain, la personnalité juridique, c'est le pater familias. C'est lui qui a la pater. C'est lui qui a la personnalité. Autour de lui, on n'a pas. Et cette personnalité se symbolise par le fait qu'il est détenteur d'une petite armoire dans laquelle il y a les masques funéraires de ses ancêtres. Donc lorsqu'un pater familias vient à mourir, on prend l'empreinte de son visage, un masque funéraire, et on le range dans une armoire. Et celui qui succède il a la persona. Donc il est le successeur de tous ces visages qui incarnent une sorte de collège transgénérationnel. C'est lui qui est le représentant de ça. Donc il y a l'idée du masque. Ce n'est pas seulement le masque de théâtre grec, comme vous le trouverez souvent à propos de la notion juridique. L'origine juridique, elle est vraiment là. Il y a un très bel article de Marcel Mauss sur les origines de la notion de personne, où tout ça est très très bien expliqué, avec une... Puis il y a Mme Dupont qui a travaillé aussi sur les... Enfin, si vous me... Voilà, je me laisse aller à faire des... sur les rites funéraires, parce que c'est assez impressionnant, ces rites funéraires. Donc, pouvoir faire surgir une personnalité juridique, c'est interposer un masque entre la personne réelle et puis le commerce juridique. Et l'invention de la personnalité morale a permis que cette conception de la personnalité permettent de digérer toute forme de communauté ou société humaine. Avec la personnalité morale, toute forme d'association des individus, qu'elle soit fondée sur le partage des choses ou sur la communion de pensée, peut être érigée à son tour en individu. Autrement dit, l'homo juridicus parvient à traiter le pluriel comme un singulier, le « nous » comme un « je », susceptible de commercer sur un pied d'égalité avec tous les autres individus. C'est ça les montages de la personnalité morale. Et la notion de devoir de vigilance oblige à ne pas s'arrêter à ces montages. La vigie Volkswagen ou la vigie Total ne doit pas s'arrêter simplement à la société mère, mais elle doit s'inquiéter de ce qui se passe ailleurs, partout où s'exprime la liberté d'entreprendre, de ceux qui, en fait, ont le pouvoir économique chez Total. Vous voyez la difficulté. Voilà, il est midi. Donc, bon appétit.
Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.